auditeurs de là-bas si j'y suis, et salut Daniel. Eh bien aujourd'hui je suis triste, parce que d'abord je dois vous dire que je suis pas du tout un facho, je suis pas du tout un antisémite, je suis plutôt un mec de gauche, et les fachos je les emmerde depuis toujours. Je rigole aux blagues de Dieudonné, au spectacle qu'il fait depuis 15 ans, je suis mort de rire, et j'apprécie beaucoup ce gars. Je trouve ses spectacles super, je trouve qu'il dit des vérités, qu'il a une bonne analyse sur le néocolonialisme, sur le Proche-Orient aussi. Et quand je vois ce connard de Soral faire une quenelle à Auschwitz, ben ça me dégoûte. Et du coup, ça me donne plus envie de rire aux blagues de Dieudonné, puisqu'il c'est son copain, il cautionne donc. Et là, ça m'attriste et je ne comprends plus. Je ne comprends plus non plus Valls quand... Quand il prend de telles positions, je trouve qu'il se rabaisse et qu'il ne montre pas l'exemple. Alors bien sûr qu'il faut interdire les propos antisémites, dès lors qu'ils le sont, mais est-ce que c'était la méthode? J'en suis pas sûr. Et puis je pense aussi à Cohen, qui parle de cerveau malade, et Tadi qui lui répond très bien en lui disant qu'il faut écouter tout le monde dans la mesure où les propos restent légaux. Je trouve qu'on est dans une France où qui s'étire, où on va plus pouvoir rien dire, où lorsqu'on dit que ben, on rigolait bien au plaque de Dieudonné, on passe pour un gros facho, et c'est aussi ce que les médias ont voulu faire croire, alors que moi perso, ben, j'en suis pas du tout, et dès lors que je commence à comprendre que ces copains le sont, ben, j'ai plus envie de rire à ces blagues, mais tout ça m'attriste parce que les idées s'appauvrissent, quoi, et le dialogue s'appauvrit, et du coup les extrêmes montent, c'est ça qui craint. Allez, salut à tous et puis à la prochaine.
Bonsoir Daniel Mermet, Claudie de Paris. Alors tu as l'air d'avoir des difficultés à faire une émission sur le public de Dieudonné Mbalambala. Moi je vais te donner un conseil qui est rien n'est plus simple. Tu n'as qu'à laisser ton micro ouvert à tes AMG, un télo de gauche, tous antisionistes. Et pour diversifier le public, d'aller dans quelques banlieues autour de Paris et des grosses villes de France, et tu interroges n'importe quel jeune d'origine étrangère et tu touches le cœur de cible. Tu vois, c'est pas très compliqué, donc t'as plus qu'à faire. Merci, au revoir.
Bonjour Pascal Tavi, Nature et Progrès, Confédération Paysanne. Il est 15h18, on vient d'investir le siège de Monsanto à Trèves, un des plus grands centres de stockage de maïs OGM d'Europe. Et on espère tenir ici jusqu'à ce que le gouvernement décide enfin d'un moratoire sur le maïs Monsanto 810. Donc on se tiendra ici le temps qu'il faudra, jusqu'à ce que des flics nous délogent. On espère le soutien de tous les auditeurs de la base ici. Et on espère décrocher du ministère le moratoire qu'il nous avait promis au mois de juillet pour interdire les OGM sur les territoires français. Voilà, on est en inspection citoyenne. Là, on constate déjà qu'il y a des produits toxiques pour les abeilles qui ont des graines. Et on recherche les OGM. Voilà. Eh bien, soutenez-nous et on compte sur vous.
Bonjour Daniel, c'est Alexandre de Paris. C'est quoi ce gouvernement qui prétend nous interdire un spectacle, qui prétend savoir mieux que nous ce qui nous fait rire et ce qui nous fait pas rire, qui crée avec cette décision du Conseil d'État un précédent très dangereux pour nos libertés, pour les libertés publiques. Est-ce qu'on doit rappeler à Manuel Valls que c'est lui qui avait trouvé que dans sa ville d'Evry, il n'y avait pas assez de blancs? C'est quoi ce gouvernement qui dresse les Français les uns contre les autres? Non, c'est pas possible. On peut pas accepter ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dieudonné.
Bonjour à toute l'équipe. Je suis Madeleine. J'appelle de La Réole en Gironde. Il y a peu de temps, dans les Landes, une jeune maman a accouché toute seule et a noyé son nouveau-né dans un lac, parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas les moyens, elle a déjà des enfants et elle ne pouvait pas assumer cette nouvelle naissance. Alors c'est sans doute ce que préfèrent tous ces cathos qui défilent pour demander la suppression de l'IVG. Je suis vraiment révoltée contre ces gens-là, révoltée. Je vous remercie beaucoup, au revoir.
Oui, bonjour Daniel. J'ai appris avec plaisir aujourd'hui que tu allais faire un reportage demain sur les fans de Dodo. J'en fais partie. Je suis heureuse. Peut-être vas-tu essayer de nous enlever la honte qui, depuis 10 jours, nous envahit. Voilà, donc je te remercie. Je m'appelle Françoise, j'ai 52 ans, je suis de Gironde, je suis fonctionnaire hospitalière. Mon arrière-grand-père est juif allemand et mon père est berbère. Je ne suis ni antisémite, ni raciste, ni je pense pas troupignard. Merci Daniel.
Face au phénomène Dieudonné, peut-être serait-il temps que les intellectuels, un certain nombre d'intellectuels et un certain nombre de politiques français aient le courage d'expliquer dans leurs interventions la différence qui existe entre l'antisionisme et l'antisémitisme. J'ai dans mes amis deux couples de militants antisionistes. Sont-ils antisémites ? Ça m'étonnerait beaucoup car ils sont tous les quatre juifs et qui plus est juifs croyants et pratiquants. Donc ça m'étonnerait qu'ils soient vraiment très antisémites. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il existe un lobby juif pro-israélien pour le sionisme, mais qu'il existe aussi un autre lobby juif dont on ne parle jamais et qui lui est antisioniste et pro-palestinien. Donc arrêtons de mélanger les torchons et les serviettes, de mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens bien partout et le sionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Qu'on se le dise.
Et bon, on va essayer de se le dire. On va essayer effectivement de se le dire aujourd'hui. Dieudonné interdit, Dieudonné martyr, Dieudonné résistant. En interdisant le spectacle de Dieudonné, le gouvernement a choisi de prendre le risque d'en faire le héros de l'antisystème. Mais l'histoire nous enseigne qu'il ne suffit pas de casser le thermomètre pour faire tomber la fièvre. Alors s'agit-il d'une fièvre ou d'une maladie ? C'est une question qu'on peut, je crois même qu'on doit se poser actuellement, étant donné la montée des extrêmes droites en France, mais aussi un peu partout en Europe. Souhaitons qu'il ne s'agisse que d'une fièvre. La France, en tout cas, vit le malaise Dieudonné, ce qu'on pourrait appeler le malaise Dieudonné. Il n'y a pas un dîner, il n'y a pas une chaumière, il n'y a pas une rencontre où la conversation ne roule pas sur ce sujet, où on ressasse l'histoire de ce génial humoriste généreux et engagé qui a glissé, qui a pété un boulard, et on se demande quand, et on se demande pourquoi, et à cause de qui, et à cause de quoi. Ça dure depuis des années pour certains, et depuis quelques semaines pour d'autres. Alors avec l'équipe de là-bas, si j'y suis, on s'est dit non, on va pas aller vers Dieudonné. On va se retourner, on va regarder son public. On n'est pas les premiers à le faire, très franchement. D'autres journalistes, d'autres curieux ont essayé de comprendre qui est ce public de Dieudonné. Notre conclusion, c'est ni des fachos, ni des idiots, ni des paumés. Mais au-delà de la rigolade, beaucoup se posent des questions et se posent tout un tas de questions. Alors, pour répondre à cet auditeur qu'on vient d'entendre, on va essayer de répondre à quelques-unes des questions qui se posent calmement, sereinement. C'est pas simple, le conflit du Proche-Orient. C'est pas simple, ce qu'on appelle la question juive. C'est pas des histoires simples qui peuvent se comprendre d'emblée, comme ça, tout simplement. Non, il faut étudier, il faut travailler, il faut écouter aussi, peut-être, ceux qui y consacrent le temps, l'étude, et qui connaissent ces questions beaucoup mieux que Dieudonné, qui a manifesté dans ce domaine très très souvent son incompétence, ce qui l'a conduit à dépasser les bornes et à devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire rejoindre le complot antisémite. Le complot antisioniste, pour lui, c'est bel et bien le complot antisémite qui était, à la fin du 19e siècle, cette théorie et ce courant qui a mené à ce que l'on sait. Mais on n'en est pas là pour l'instant. On va essayer de répondre aux questions que certains auditeurs aussi, vous avez entendu, et spectateurs de Dieudonné se posent. Le malaise Dieudonné. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la bassiste. Mais au 01 56 40 37 37.
Il est 1h du matin, c'est encore les faucheurs volontaires. Les gendarmes ont décidé de s'activer cette nuit. Donc en fait, ils commencent à nous sortir petit à petit, par petits groupes. Messieurs, dames, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous aurez des OGM dans vos champs et dans vos assiettes encore cette année. À bientôt.
Bonjour. Juste pour laisser une pensée d'Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent, sans rien faire. Voilà, c'était Madeleine, de Dordogne.
Le vent se lève. Rentre donc la poubelle.
Ce soir, on va rigoler. Pour ça, s'il y en a qui sont un peu fragiles, se dégager maintenant, franchement. Pour le cœur, je parle au cœur. Non, on va rire dans un cadre, hein, le cadre évidemment de la liberté d'expression, sinon c'est la porte ouverte à tout. La porte ouverte à la haine. La haine. Non, vous m'attirez vers le bas, les mecs.
C'est dommage pour un pays pour la France qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité d'en arriver à interdire un spectacle de Dieudonné où il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, quoi.
Vous êtes juif, peut-être, non? Il a raison, le mec. Attends, c'est grave ce qui se passe. Oui, mon vieux, ne rébelle.
Vas-y, continue à te foutre de ma gueule.
Je profite, mais je me suis aussi reconverti très sincèrement au judaïsme. Ouais.
Mais quels sont les intérêts à ces gens-là, ces sionistes?
Je sais pas. Mais...
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la bassiste, j'y suis avec Anaël Verzo. Le malaise Dieudonné.
Flight number 2, arriving from New York.
Là, on vient d'arriver à Nantes et on attend le tramway pour aller au Zénith, où aura lieu normalement le spectacle de Dieudonné, Le Mur. Et on est avec Jean-Baptiste, qui est étudiant à Nantes.
Je suis en classe prépa maintenant.
Prépa quoi, scientifique?
Non, littéraire.
Littéraire.
Ouais. Puis l'année prochaine, je vais en fac à Paris, normalement.
Mais toi, tu comptais pas y aller au spectacle de Dieudonné? Tu y vas parce que je t'ai demandé de venir, mais...
Non, en fait, c'est pas ça. C'est que je fais partie de l'action antifasciste Nantes. Et on avait décidé de pas y aller parce qu'on voulait pas ni manifester avec la LDJ par exemple, ou enfin on trouvait pas notre place, on avait peur de créer une ambiguïté avec notre présence, et donc on n'avait pas prévu d'y aller. Par contre, on avait prévu que certains de nos militants y allaient, et donc ça tombe bien, ça me permet d'y aller.
Tu t'assois? Ça a combien de temps, Jean-Baptiste, le Zénith?
Le Zénith, ça doit être à 30 minutes maximum, je crois.
C'est en banlieue, c'est ça, en banlieue de Nantes?
Oui, c'est sur le périphérique.
Alors, c'est interdit ou pas? T'as eu une info?
Ouais, alors a priori, selon le site du Monde, ça vient de tomber. Le Conseil d'État maintient l'interdiction du spectacle à Nantes, donnant raison au gouvernement et cassant la décision du tribunal administratif de Nantes. Donc a priori, le spectacle va être interdit, quoi.
Le spectacle est interdit.
Ouais, ça risque d'être chaud.
Un bras tendu vers le bas, une autre main sur l'épaule, voici une quenelle. Comprenez, ce bras d'honneur popularisé depuis 10 ans par l'humoriste sulfureux Dieudonné.
En 2009, c'est en quenelle que Dieudonné
s'affiche.
Oui, mais si on est contre l'interdiction, si on est pour la liberté d'expression, qu'est-ce qu'on fait? On laisse pisser, on laisse courir, on dit rien. Pas du tout. Non. On n'interdit pas, mais on discute, mais on combat, mais on avance des arguments on explique, c'est le débat public, c'est la démocratie, c'est le boulot de tous. Mais c'est le boulot aussi, comme on le disait tout à l'heure, des intellos, des journalistes, d'essayer d'éclairer, de raconter, d'apporter des éléments contradictoires d'appréciation afin que le citoyen puisse exercer ses droits démocratiques. C'est rigolo, les rigolos, hein ? L'influence des rigolos, on les oublie. On sait l'influence des chansons, des chanteurs, des artistes qui chantent. Chacun a son artiste dans sa génération. Il y a la génération Brassens, la génération Renaud, la génération Didier Super. Hein, ce moment où tout gamin, le cœur et la tête s'ouvrent par le truchement d'un artiste comme ça. Et on s'en souvient toute sa vie. C'est affectif. Et on veut pas cette trahison. Je me souviens, moi, qui vous cause, quand j'étais très amateur d'Yves Montand, par exemple. Et lorsque Montand, dans les années 80, s'est pris pour Reagan, ça a été une grande déception. C'était très difficile. J'avais honte de ça. J'étais très malheureux de ça. D'ailleurs, j'étais pas le seul, puisque Montand a disparu quasiment complètement. C'est comme ça un artiste qui a un attachement. Et je pense que beaucoup des auditeurs et des spectateurs aujourd'hui, une partie en tout cas, souffrent de cet attachement-là. C'est ça le malaise. C'est une partie du malaise Dieudonné. Et les comiques, c'est pareil. Les anciens se souviennent de Pierre Dac. Il y a une génération Pierre Dac. Il y a une génération Bedos. Hein, Bedos, il est toujours là. Il y a la génération Coluche. Il y a la génération Zouk, que beaucoup d'entre vous ont oublié, mais qui était absolument génial et qui, un jour, je l'espère, reviendra. Il y a génération Dieudonné aussi. Des gens qui ont, voilà, dans leur jeunesse, découvert le monde à travers le talent, parfois le génie extraordinaire de ces humoristes. Alors, il se trouve que la plupart de ceux que je viens de citer étaient plutôt des libertaires, étaient plutôt des gens de gauche. Eh ben non, l'histoire nous prouve que ça peut être tout à fait le contraire. Je me souviens, moi qui vous cause, des années 80 où Coluche était animateur sur Europe numéro 1, chez nos confrères d'Europe numéro 1, l'après-midi. Et j'étais dans un taxi, et on vivait avec le taxi un moment vachement drôle. Il avait mis la radio à fond, on était coincés dans les embouteillages, et à chaque vanne de Coluche, on se marrait ensemble, en chœur, avec ce chauffeur de taxi. Et à la fin, alors, à un moment, Coluche imitait les Arabes, entre guillemets. « Oh, ça vous plie, oh, monsieur, excusez-moi de vous... » Et on se bidonnait, et le chauffeur se retourne vers moi et me dit « Il a raison quand même, parce qu'il y en a marre avec ces bougnoules. » Il y a eu un silence. Et ça, c'est une incompréhension. Il y a ceux qui prennent les choses au deuxième degré, il y a les choses qui prennent la chose au premier degré. Et c'est ce qui se passe aussi très souvent, c'est ce qui s'est très souvent passé avec Dieudonné, très longtemps. Mais aujourd'hui, il a dépassé les bornes, il a pété un boulard, comme je le disais en commençant, et comme ça se répète beaucoup. Mais voyons comment... qui est ce public ? Qui sont-ils ? Qui êtes-vous, public de Dieudonné ? Je vous dis qui êtes-vous parce que je sais, et ça ne manque pas de nous troubler, qu'un certain nombre d'auditeurs de France Inter et de la Basse-J Suisse sont aussi des amateurs de Dieudonné. Alors là, je peux vous dire qu'il y a vraiment une confusion, et on va essayer de la comprendre calmement, sereinement, jusqu'à 16h ou presque, sur France Inter. Le malaise Dieudonné.
T'as vu les infos ? C'est pas vrai, c'est dingue. J'y crois pas. Arrête. Non, tu déconnes. J'y crois pas. C'est pas possible. Tu rigoles ?
Putain.
Je vois pas qui c'est.
C'est pas possible.
Tu me l'apprends, mais je suis pas surpris. J'en étais sûr. J'y crois pas.
J'y crois pas.
C'est horrible, hein ? Attends, y'a encore plus drôle. Comme quoi y'a pas de fumée sans feu. Les chiens ne font pas des chats, il ne manquerait plus qu'ils s'en sortent. Au village, c'est la stupéfaction.
J'y crois pas.
Ils n'auraient jamais dû revenir. On voudrait juste comprendre. Je l'ai pas reconnu. Maintenant, il doit payer. On n'a rien vu venir.
Après, il y a eu un grand silence.
Donc ça progresse.
Bonjour.
On est rentré dans le fascisme, chère madame.
Vous aviez une place pour le spectacle?
Non, j'espère en avoir une en dernière minute.
Je vous envoie une si vous voulez, j'en ai deux.
Bon, on n'est plus étonné de rien dans ce pays, regardez. Le Sénat a bien absous monsieur Dassault.
Non, c'est vraiment hallucinant, quoi. C'est une grosse pression de l'État sur la justice, c'est du grand n'importe quoi.
On a l'intérieur qu'on a fait une affaire personnelle. Maintenant, il a mis sa tête sur le bio et il ne pouvait plus faire autrement. Mais il va la perdre, sa tête. De toute façon, il va la perdre, sa tête.
On valse du tout, ça.
Moi, si on continue à vouloir me faire fermer mon clapet en me disant, mon pote, t'es pas un homme libre, ici, tu vis en France, tu as le droit de dire ci, tu as le droit de dire ça, ça, tu peux pas le dire, ça, tu peux pas le dire, à un moment donné, je vais péter un câble. Parce que je suis un homme libre et je dis ce que je veux quand je veux.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez?
Bien sûr, je travaille.
Vous en pourriez être au chômage, il y a un taux de chômage.
Oui, effectivement, vous avez raison, excusez-moi. Respect pour les 5 millions de chômeurs qui peuvent rien. Non, mais je travaille.
Donc vous êtes commercial?
Oui.
Dans quoi?
Peu importe.
Vous êtes nantais ou...
Du tout.
Vous êtes breton?
Non.
Vous êtes à la région?
Je suis un ancien parisien qui s'est installé à la campagne.
Et vous?
Bon, qui m'embourse?
Je viens de la banlieue parisienne, je suis 91.
De l'Essonne?
Essonne, oui.
9-1. De route.
Arpajon.
Et vous travaillez ou...
Bah oui, je travaille.
Vous faites quoi?
Moi, je suis concepteur en système décisionnel, informatique.
C'est sérieux?
Faut pas qu'on tombe dans le piège. Effectivement, moi, je comprends. La chose, c'est un truc terrible qui s'est passé avec une extermination en masse des Juifs. Il faut le reconnaître. Mais après, il faut pas utiliser cette Shoah pour faire du chantage à l'antisémitisme. Il faut que les gens fassent la différence. C'est tout ce qu'on demande. Mais après, effectivement, il faut le dénoncer. Les gens aussi, les extrêmes, il faut le dénoncer. Ça, je suis d'accord. Les gens qui insultent les Juifs, il faut le dénoncer. Ceux qui insultent les musulmans, il faut le dénoncer. Ceux qui insultent les chrétiens, il faut le dénoncer.
Les gens, pas les humoristes.
Les gens, pas les humoristes, dit ce spectateur qui va être déçu, puisque vous avez compris, vous le savez, le spectacle n'a pas eu lieu ce 9 janvier, le jeudi 9 janvier à Nantes. Le spectacle n'a pas eu lieu, ça tout le monde le sait. Et voilà un peu l'ambiance à demi-mot. Et on va aller très très vite sur le deux poids deux mesures. Ça, c'est l'expression qui revient le plus souvent. Oui, d'accord, mais c'est deux poids deux mesures. Celui-là, il a le droit à ça, mais celui-là, non. Celui-là fait ci et il est absous. Et celui-là, par contre, il n'a fait que ça et il est... Voilà. Il y a un sentiment d'injustice, évidemment. Ça, c'est qui sort, mais il y a des choses beaucoup plus profondes qu'on n'arrivera pas, évidemment, à élucider en l'espace d'une malheureuse heure d'émission. En tous les cas, je le répète, s'il y a dans ce public des fachos, des énervés, ils sont absolument minoritaires, c'est pas non plus contrairement à ce que certaines photos le suggèrent et certains commentateurs l'affirment, les jeunes des quartiers et les filles des quartiers voilés qui viennent voir Dieudonné. Non, la plupart du temps, d'ailleurs, c'est un public de jeunes, plutôt bien installés, assez bien installés dans la vie, qui viennent rigoler, qui viennent se marrer, qui aiment ça, pour qui c'est une détente. Dieudonné, c'est celui qui dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Alors bien sûr, on n'approuve pas toutes ces idées, mais voilà, oui, bien sûr. Enfin, voilà, c'est Dieudonné, d'ailleurs, lui-même compare son public à une boîte de crayons de couleur. C'est effectivement assez vrai. Ce qui est un problème, enfin, en tous les cas, un sujet, c'est la quantité, évidemment, de public et la fidélité de ce public, que ce soit le public qui vient le voir dans son théâtre de Paris ou ailleurs en France actuellement, et qui, évidemment, vient sur son site, vient voir les vidéos des spectacles de Dieudonné, ce qui est un succès et un triomphe considérable. On continue.
Tout le monde passe par là-bas parce qu'il y a le rond-point. Et on va tous passer par là-bas, on va y aller à pied.
Bah, on va y aller aussi alors, ouais. Il y a un mouvement là de foule.
Et demain les gens vont
contourner le pont.
Ils sont en train, ces politicards, de créer de l'antisémitisme en France. Dieudonné, il ne fait pas d'antisémitisme. Ils ont mis un doigt, ils sont en train de rendre les gens racistes.
Excusez-moi.
Mais ils créent de l'antisémitisme.
Comment vous vous appelez?
Nordine.
Nordine.
Je suis négociateur immobilier. Donc la crise, je connais.
Mais... Et donc, vous allez voir régulièrement les spectacles de Dieudonné depuis longtemps ?
J'en ai vu un. Le dernier que j'avais vu, c'était au mois de mars de l'an dernier. C'était à la Cité des Congrès. On s'est éclaté, quoi. Je fais le signe de la quenelle au moins depuis 7 ans. J'ai été dégoûté de savoir que des salauds à la télé sont allés dire que tu étais devenu un nazi parce que depuis 7 ans, je fais ça. J'ai dit, mais ils se prennent pour qui, ces cons, pour dire que moi, je suis un nazi ? Moi, mon grand-père, il a libéré Toulon, quand même, contre les nazis. On est en train de dire que moi, le petit-fils de ce mec-là, qui a libéré les nazis de la France, je suis rendu à faire un assassin nazi. C'est ça qui me révolte.
Tu parles de respecter la mémoire des morts. Dieudonné ne le fait pas. Quand il chante ou quand il y a des quenelles devant Auschwitz. Non, c'est pas un humoriste quand il se présente aux élections législatives. C'est un homme politique.
Oui, mais il a pas fait de l'humour sur les Juifs à ce moment-là. Il était très sérieux et très politique.
Ah, il était avec Alain Soral qui est allé devant le mémorial de la Shoah à Berlin faire une quenelle. Ça, c'est pas un truc drôle. C'est pas humoriste et c'est dans un but politique.
Et est-ce que vous connaissez Alain Soral?
Qui connaît pas Alain Soral?
On l'écoute sur YouTube. Il a forcément une écoute. Il écrit, moi.
Il est antisémite ou pas, Alain Soral?
Moi, je n'ai pas
Soral, personne. Pas mais il est très bon, à part que on le bloque parce qu'il y a des idées qui gênent. Il y a des idées, il y a des thèses aussi qui gênent et qui ne vont pas dans le sens de l'établissement qui a été mis en place, tout simplement.
Vous habitez là, à Nantes ?
Oui, je suis né à Nantes et puis j'habite à Nantes. Bah, mon père est algérien, mes parents ont fait la guerre pour la France. D'ailleurs, moi je suis devenu français parce que mes parents je suis fils d'Arki, donc ils sont venus en France. Quoi. C'est comme ça que je suis devenu français et j'en suis même très fier de cette histoire. Parce qu'il faut quand même que je sache qui je suis. Mais il faut rester intégralement français. Merde !
Vous avez des enfants ?
À lui rendre. Non, j'en veux surtout pas.
Vous ne voulez pas d'enfants ?
Non, pas dans cette société, non. Bon, c'est une société pourrie, regardez, ça va partir en sucette. J'ai pas envie que mon fils soit un soldat d'un
gouvernement. Ça va partir en sucette. Pourquoi vous dites que ça va partir en sucette? Parce que vous avez un boulot, vous gagnez combien par mois?
Moi je suis indépendant, donc il faut plutôt prendre ça sur l'année. Je travaille avec 50 KF par an.
KF
50 000 euros par an. 4 000 euros à peu près par mois.
En net?
Ouais. Ah ouais?
Vous faites partie de la...
J'ai fait des études pour ça, j'ai bac plus 5, j'en ai chié.
Vous votez pour qui?
Moi au municipal, c'est Marine que je vote. Moi, je fous le bordel. Vous faites le bordel dans ma vie, vous m'interdisez de me gratter l'épaule pour faire une quenelle. Moi, je vais vous montrer. Allez, sortez de là. Marine, elle a encore pas volé. Marine, elle a encore pas menti. Donc, je peux encore la prendre. Tout simplement. Elle aime pas les musulmans, pourtant. J'en ai rien à foutre. Moi, je vote le changement. Tout simplement. Il faut passer par du nationalisme et on verra bien ce que ça va donner. 1930, ça va se reproduire. Je pense pas. Mais en tout cas, il faut leur mettre un bon coup de pompe dans le cul dans la fourmilière. Alors, d'une force.
Alors, explication, éclairage avec Michel Siboni, qui est membre de l'Union juive française pour la paix. Elle appartient au bureau national de cette association, de ce mouvement, qui est une organisation juive, laïque et universaliste. Michel Siboni.
Je suis membre du Bureau national de l'Union juive française pour la paix, qui est une association qui milite essentiellement sur deux thèmes. Promouvoir les conditions d'une paix juste entre Israéliens et Palestiniens dans le cadre du conflit du Proche-Orient. Et aussi lutter contre tous les racismes, évidemment aussi le racisme antisémite, mais en faisant une grande différence entre les racismes promus par l'État dans ce pays, avec des politiques racistes et des termes racistes prononcés par des responsables politiques français, et le racisme antisémite, qui lui est un racisme interdit par l'État et dans un système qui prétend protéger les Juifs.
Alors Michel, qu'est-ce que vous pourriez dire à Nordine ? Et de Nordine.
J'aime pas trop ce qu'il dit, en vrai. Ça m'a plutôt agacée. Je veux bien croire ce qu'il dit sur la quenelle, que c'est un geste antisystème et qu'il n'y avait aucune velléité d'antisémitisme dans ce geste, en tout cas chez lui, puisqu'il dit qu'il le faisait depuis 7 ans, etc. En même temps, il dit des choses très contradictoires. Il y a une espèce de magma d'idées qui est étonnant, d'ailleurs, pour un mec qui dit qu'il a fait 5 ans d'études. Il me semble qu'il pourrait être un peu plus cohérent dans ses analyses. Tout ça pour en arriver à dire qu'il va voter Marine Le Pen sans problème, que Soral n'est pas un antisémite, alors que c'est un facho de bas étage. C'est extrêmement agaçant, cette espèce de mélange. Et puis surtout, anti-système, il gagne 4000 euros par mois, je les ai jamais gagnés de ma vie. Je vois pas exactement ce qu'il attaque, et puis j'ai envie de dire comment il attaque. Qu'est-ce qu'il fait, le mec? C'est un geste politique, la quenelle? D'ailleurs, un des problèmes qu'il y a avec la quenelle, je crois, enfin, qui se cache derrière cette espèce de geste qui est censé symboliser sa colère du système. Et je veux bien croire que pour beaucoup de jeunes gens, il y ait cette espèce de magma confus, de rancœur et de ressentiment qui ne sait pas comment s'exprimer et qui finit par s'exprimer dans un geste qu'on leur a donné, quelque part. Pourquoi accepte-t-il de n'en être réduit qu'à un geste ? Pour exprimer tout ce qu'ils ont à dire. Quand on a des choses à dire, bah, il faut essayer de les articuler et de les dire, de les exprimer, pas de se contenter d'un geste physique, comme un bras d'honneur quand on est énervé sur la route. Qu'est-ce qui fait qu'on a une partie d'une jeunesse ou des gens qui, dans ce pays, n'ont pas d'autre accès à l'expression dans leur société que ça ? C'est aussi une question qu'on doit se poser, nous. Et alors là, je vais en revenir au sujet qui m'intéresse de l'antisémitisme de Dieudonné, que lui appelle de l'antisionisme. Ce en quoi il rend un service majeur, ça a été beaucoup dit aux sionistes, qui ne rêvent que de ça, puisque c'est...
C'est-à-dire ?
Bah, toute la politique du sionisme, et notamment en France, et des groupes sionistes en France, a été d'interdire toute critique d'Israël, en la nommant immédiatement comme étant de l'antisémitisme. C'est-à-dire en amalgamant la notion d'antisémitisme avec la notion d'antisionisme. Critiquer Israël, c'est être un antisémite. Ça fait d'ailleurs de tout juif en France une victime potentielle. On peut lui taper dessus puisqu'il représente Israël et tout ce que fait Israël. On bombarde Gaza, donc on peut attaquer. Si être juif, c'est être comme un Israélien, voire comme un soldat qui attaque Gaza, alors on peut casser la gueule à n'importe quel juif dans la rue. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Et à la limite, c'est génial si on casse la gueule à un juif dans la rue, du point de vue d'un sioniste. Parce que ça permet de faire taire tout le monde, tout le monde. Et le grand vainqueur de toute cette histoire, c'est la politique israélienne. Ça a commencé par des procès faits à des grands intellectuels qu'on a aussi essayé de faire taire. On n'est pas parti des petits jeunes des banlieues, on est parti de grands journalistes ou de grands intellectuels à qui on a fait des procès parce qu'ils avaient osé ouvrir leur gueule, excusez-moi l'expression, sur Israël et dire que c'était scandaleux ce qui se passait avec l'occupation, la colonisation et la persécution d'une population civile pour l'essentiel des armées. Et alors, pour en revenir à cette jeunesse-là, et nous, à l'UJFP, on l'a vu et vécu, parce qu'on travaillait avec des associations issues de l'immigration, qui nous ont emmenés dans des banlieues, en nous disant, on a vu apparaître des étoiles de David avec des croix gammées, et nous, on veut discuter avec les gens des cités, et on veut que vous, vous veniez expliquer à ces jeunes-là vos conceptions du conflit, etc. Chaque fois qu'on l'a fait, et partout où on l'a fait, à la seconde où on permet à ces gens de s'exprimer politiquement et de réfléchir en termes politiques avec nous, il n'est pas question de racisme. C'est fini. Ce qui a été fait dans ce pays, en France, et c'est une catastrophe, et ça nous vaut des quenelles. Il faut pas... Les responsabilités sont partagées, je pense. Hein. Les Dieudonné sont des produits aussi. Des produits d'un ressentiment de gens à qui on a interdit l'accès aux politiques. Et ça a été fait à dessein. Je me rappelle de ce fameux rapport Ruffin qui est sorti au début des années 2000 et qui a été un des premiers à écrire noir sur blanc que l'antisionisme des banlieues, c'était une forme d'antisémitisme. Mmh. Ça a été posé tout de suite. Et c'était une politique volontaire. Il fallait faire taire la critique d'Israël. Et pour la faire taire chez les intellos et dans les élites, ça a été les procès. Pour la faire taire dans les banlieues, ça a été l'antisémitisme. Vous êtes des anti-juifs parce que vous critiquez Israël. Eh bien non. On peut critiquer Israël et ne pas être un raciste.
Si vous saviez tout ce que je sais, tout ce que vous ne voulez pas comprendre, si vous saviez tout ce qu'on vous cache en vrai, tout ce que vous refusez d'entendre. Quand on vous parle d'un attentat, comme d'une action imprévisible, je sais que dans les plus hautes sphères de l'État, on organise l'impossible. Le complot c'est génial, surtout quand il est mondial. J'imagine ce que je veux. Le complot c'est un plan dessiné par des gens, par ceux qui détiennent les cartes du jeu.
Vous croyez que le protocole des sages de Sion est une invention de la police secrète tsariste?
Mais moi je sais que la solution finale est une manipulation orchestrée par les sionistes.
Le complot c'est un plan dessiné par des gens, par ceux qui détiennent les cartes du jeu dans une cachette secrète. Ils discutent de la planète, des banquiers, des militaires et des religieux autour d'une table ronde. Ils décident du destin du monde, les juifs, les francs-maçons et quelques mafieux.
Il y a le zénith, ça y est, juste en face de nous. Et des personnes, par centaines au moins, par milliers, je sais pas, qui sont rassemblées juste devant cet énorme zénith. Je suis toujours avec Jean-Baptiste, étudiant. Pas spécialement pro-Dieudonné.
Clairement pas, clairement pas.
Voilà, des hommes, des femmes, très jeunes quand même, hein, globalement, peut-être 25-30 ans en moyenne.
Avec une présence, pour les connaître, du Renouveau Français, juste à ta droite, qui est un groupuscule fasciste royaliste, avec Bruno, l'un des plus fervents militants de la cause fasciste à Nantes.
C'est lequel?
C'est celui avec le béret. Il est looké en plus, donc.
Ah ouais, ah bien, on va s'en. Vous êtes fourré, en tout cas, vous avez pas l'air très triste.
Là, c'est toi qui es en train de me la mettre. Et moi, on me la met pas. Je m'en mets deux tous les matins au petit déjeuner, comme il dit mon cher ami Dieudonné. Bah, je me mets deux quenelles tous les matins, ça veut dire que je peux pas en prendre dans la journée. La quenelle, vous savez ce que c'est? Ça se mange, c'est comme une saucisse.
Vous trouvez ça bon?
Bah non, je mange pas de porc. Mais je respecte ceux qui en mangent. Et là, je viens de t'en mettre une.
C'est contre les failles du système, quoi. C'est pour dire qu'on en a marre un peu de tout ce que le système nous met et que. Enfin, tout ce qu'ils nous font et que c'est. Enfin, c'est pas normal, quoi.
Vous êtes étudiante en quoi?
En langue étrangère appliquée. Je suis en deuxième année. Dans un an, j'aurai ma licence et je sais vraiment pas si je vais trouver du travail. Et je me dis que si les ministres s'intéressent plutôt à Dieudonné que de s'intéresser au travail ou aux jeunes ou autre chose, et bah, je suis vraiment pas sortie d'affaire, quoi. C'est dommage pour un pays pour la France qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité d'en arriver à interdire un spectacle de Dieudonné où il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, quoi.
Mais qu'est-ce qu'ils pensent tout bas, les gens, c'est ça?
Bah, que le sionisme, c'est un sionisme virus.
Et non, le lobby juif est très puissant en France. Mehdi, je suis anti-sioniste.
Qu'est-ce qu'il y a derrière le lobby sioniste?
Le lobby sioniste,
c'est qui, en fait?
Ah, bah c'est... Il y a plein de monde. C'est le pouvoir, c'est tout ça, c'est le gouvernement, c'est dans des... voilà, je parle même pas des États-Unis, hein. C'est encore pire. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit en France qu'on ne peut plus dire quelque chose sans qu'on nous brandit la menace de... voilà, vous êtes antisémite, vous êtes tout ça. Alors que, voilà, c'est eux qui dirigent la France, faut dire la vérité, et ils protègent Israël depuis longtemps. Et puis c'est à cela que j'en veux. Les autres, ils n'ont rien à voir. Les juifs qui sont, voilà, faire venir à l'Elysée Ariel Sharon, qui a été à l'origine de Sabra et Shatila. Ça vous choque pas, ça aussi? Il a gazé tout un village. Peut-être que je me mêle un peu les pinceaux, mais en tout cas, c'est ça. Aujourd'hui, je suis anti-Israël, mais dans sa manière de gouverner envers les Palestiniens.
Il y a eu un communiqué d'un site internet palestinien qui défend les Palestiniens et qui se désolidarise de Dieudonné en disant « Dieudonné est antisémite, nous ne sommes pas d'accord avec les idées qu'il défend, Dieudonné ne défend pas le peuple palestinien, que les choses soient très claires ».
Alors voilà, les amalgames sont faits très clairement. Les Juifs dirigent la France. C'est des choses qu'on a entendues à la fin du 19e siècle et qui ont parcouru toute l'histoire de l'antisémitisme, toujours masqué, toujours plus ou moins déguisé, mais là, de moins en moins déguisé. Alors, Dieudonné et son entourage se sont présentés comme des défenseurs de la cause palestinienne à travers la fameuse liste Euro-Palestine, et de façon permanente, il revient sur ce thème. On rencontre Robert Kissous, qui est secrétaire général de l'association France-Palestine Solidarité.
Robert, vous êtes membre du bureau national de l'association France-Palestine Solidarité.
Oui, je suis militant de cette association depuis longtemps, membre de son bureau national. Et je soutiens le droit des Palestiniens à avoir leur autodétermination depuis 50 ans. L'association France-Palestine Solidarité est de très loin la première association qui a pour objectif d'aider le peuple palestinien à voir appliquer le droit international comme base de solution, comme moyen de solution du problème et de ce que l'on appelle le conflit israélo-palestinien.
Ce que vous dites, c'est que Dieudonné instrumentalise la cause palestinienne.
Totalement. Il instrumentalise la cause palestinienne. Et souvent, on dit, ou on entend, ou on lit que Dieudonné est un humoriste, qu'il est provocateur, ceci, cela. Mais non, faut cesser avec cet argument complètement aberrant. Il n'est pas humoriste, il est d'abord un militant politique. D'ailleurs, dans tous ses sketchs, il revient tout le temps sur les mêmes questions. La même question, c'est obsessionnel.
Ah, ce monde est-il réel? C'est une question qu'on peut se poser. L'autre jour, j'ai un pote Bernard qui vient chez moi, pareil. Fait un bout de temps que je l'avais pas vu, il a dit, ouais, Dieu, donc. Alors, il voulait me parler absolument depuis 15 jours. Puis il n'arrivait pas quand il arrivait. Alors, j'ai dit, bah, vas-y. Elle me dit, ouais, mais c'est pas évident. Bon, déjà, il me dit, est-ce que tu crois dans l'existence des extraterrestres?
Extrait du spectacle Foxtrot de Dieudonné.
Je dis, sérieux, là?
2013.
C'est obligatoire ou pas? Je ne voudrais pas nier l'existence des extraterrestres s'il y a une loi, attention. Mais il me dit, mais non, il m'a dit, ça n'a rien à voir avec les chambres à gaz, tout ça. Il m'a dit, là, c'est sûr, on a des preuves. Et... Ah non, j'ai gueulé, ah non. Ah non, j'ai gueulé. Ah, j'ai dit arrête, lâche-moi. Ah, j'ai dit lâche-moi.
Mais ce qui est aussi très significatif, c'est que en dehors de ces sketchs, il développe les mêmes positions politiques. Il y a plein de vidéos à son sujet. Il a donné une vidéo, par exemple, à la télévision iranienne où il explique que les sionistes ont tué le Christ. Enfin, faut arrêter. Les sionistes, à l'époque du Christ, ça n'existait pas. Donc, les sionistes ont tué le Christ, ça signifie les juifs ont tué le Christ. Par ailleurs, dans une autre vidéo, il explique qu'il ne peut pas utiliser le mot juif, qu'il utilise le mot sioniste pour ne pas se faire condamner. Il a dit « Il est temps de faire un front uni contre le sionisme ». Les musulmans doivent tendre la main aux chrétiens et les chrétiens doivent rejoindre l'islam ouvert, moderne, qu'a lancé l'imam Khomeini. Donc c'est assez effrayant. La base de son raisonnement, c'est découper les gens en catégories d'origine, ethnico-religieux, et il les met dans des cases. Après, les musulmans doivent se mettre avec les chrétiens. Oui, mais attention, il faut que ce soit les vrais musulmans. Les vrais musulmans, c'est-à-dire ceux qui marchent avec l'Iran, ou des gens comme ça. Mais par exemple, il disait dans cette même vidéo, pas ceux d'Arabie Saoudite. Ceux-là, sous-entendu, c'est des sionistes. Pas ceux qui tiennent le marché du halal. Vous devinez qui c'est qui les tient, sous-entendu, des juifs. C'est une mentalité infecte.
Et ça, alors et même puis, qu'il prétend le contraire, alors que Dieudonné prétend être contre les communautarismes.
Mais c'est faux, voilà. Il s'en nourrit complètement. C'est quelque chose de très fort chez lui. C'est pour ça tous ceux qui nous parlent de ses sketchs, etc., qu'ils aillent voir les vidéos hors sketch. Ils sont très significatifs.
Dieudonné Mbalambala, c'est mon nom,
oui.
Je suis français, d'origine camerounaise.
Télévision iranienne.
Je suis humoriste depuis près de 25 ans maintenant, artiste, j'ai un théâtre à Paris.
Interview du 18 septembre 2011.
Et puis j'ai été engagé dans la lutte contre le sionisme en France. Et j'ai été tête de liste, donc de la liste anti-sioniste aux élections européennes en 2009. Et je me bats contre le sionisme au travers de mon travail. Parce que la matière première d'un humoriste, c'est la bêtise humaine, c'est le mensonge. Et au final, c'est le sionisme. Parce qu'il n'y a pas plus bête, il n'y a pas plus menteur que le sionisme. Le sionisme, c'est ce qu'il y a de plus mauvais qu'on a en nous. C'est-à-dire, c'est les instincts les plus bas. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, le sionisme, il veut tout. Il veut à la fois exister en souterrain et à la fois maintenant exister au grand jour. Et dire, regardez, c'est moi, Israël, je suis fort et je suis grand. C'est toute la planète qui est touchée et qui est infiltrée par cette maladie. Et bon, c'est dans cet espace-là que je me suis, moi, exprimé. Voilà.
Voilà, il y a des moments où les rigolos sont pas rigolos du tout. Le rire est le propre de l'homme, mais c'est pas toujours très propre.
c'est pas toujours très propre. Robert Kissous.
Et puis enfin, je voudrais dire que la liste antisioniste qui a été présentée en 2009, un ramassis hétéroclite d'antisémites et d'intégristes. Et là-dedans, dans ces intégristes, il y avait le fameux Gouasmi, Yahya Gouasmi du Sanzara, qui était la composante chiite pro-iranienne de la liste. Et alors, lui, il a que des déclarations, mais on se demande s'il a toute sa tête, cet homme. Il a déclaré que derrière chaque divorce, il y a un sioniste. Là, on tombe dans le délire.
Un divorce entre mari et femme, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Derrière chaque divorce, il y a un sioniste, parce que les sionistes détruisent la valeur morale des sociétés. C'est effarant, quoi. Ouais, c'est effrayant, vrai. Même.
Et dans cette liste, il y avait aussi Serge Thion, Ginette Scandrani, qui a été exclue du Parti des Verts.
Tous ces gens... Oui,
Robert Scandrani,
qui est absolument, tous ces gens-là, absolument, et d'autres encore. Et,
Thierry Messant.
Et Béatrice Pignède, et d'autres encore. Mais bon, c'est toute cette mouvance-là, voyez-vous, et sur laquelle nous sommes extrêmement vigilants. Parce qu'ils aimeraient bien de temps en temps infiltrer et nous pourrir la solidarité avec la Palestine, mais ça, nous et tout le mouvement de solidarité pour la Palestine, regroupé dans le collectif national ou dans la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, eh ben nous faisons bloc contre ces gens-là. D'ailleurs, le service d'ordre du collectif national, lors d'une des manifestations que nous avions faites au moment des bombardements de Gaza par Israël, ils avaient voulu rentrer dans la manif et notre service d'ordre les en a empêchés. Physiquement, affrontement. Pas question qu'ils rentrent dans une de nos manifestations.
Et c'était en janvier 2009.
Nous ne cherchons pas la violence, mais nous ne voulons pas qu'ils viennent nous polluer la vie.
Merci beaucoup.
Ce sont des gens dangereux.
Damien.
Moi, je vous avouerai que je reste perplexe. C'est le produit de la société. Des Dieudonné, il y en aura plein. Et c'est ça le problème. Après, Dieudonné, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'une contradiction, mais je pense qu'il y a...
Ça va, vous avez fini votre petit cirque ? Justement, on essaye de discuter, là. Vous pouvez crier plus loin, s'il vous plaît, je travaille. Non, je vous parle, je vous demande d'aller crier plus loin parce que vous empêchez quelqu'un de s'exprimer, en l'occurrence.
Je pense qu'en fait, il faut laisser à Dieudonné la possibilité de s'exprimer face à des contradicteurs. Et là, on pourra vraiment voir le fond de sa pensée. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas juger la pensée de Dieudonné en l'enfermant, en l'empêchant de s'exprimer librement devant tout le monde.
Qu'est-ce qu'il a ? Il veut parler, le monsieur. Allez.
On sait très bien ce que vous allez mettre. Ça coupe, hein, la télé, c'est sûr. Hein.
C'est pas la télé, c'est la radio, c'est France Inter, c'est la Bastille.
Ah, mais France Inter,
et des personnages, Dieudonné, c'est un artiste.
Oh là là,
mais
vous n'avez pas compris encore ?
Si, je ne connais pas lui,
l'Arménien,
je suis
arménien
ou pas ?
Vous êtes conditionné par les médias qui sont sionistes.
Ouais.
On est d'accord ?
Ouais, bah oui. Flo juif international. Vous êtes en train de me dire que je suis conditionné parce que je vous dis que la Shoah a existé ?
Non, moi je suis contre les Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique, c'est...
Pas facile, hein ? Le malaise, Dieudonné, un reportage d'Anaël Berzo. Merci à Jean-Baptiste Ravigno-Méziane, à Michel Ciboni, à Robert Kissous, à Jean-Paul Gauthier et à Gabriel. Pour en savoir plus, il y a pas mal de bouquins sur Dieudonné. La vérité sur Dieudonné, par exemple, un livre d'Anne-Sophie Mercier paru chez Plomb. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org également, ainsi que sur la page Facebook de l'émission à la technique aujourd'hui, Xavier Chocron et Serge Viguier. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Tout de suite, vous allez retrouver Hervé Pochon avec son temps de Pochon. On se retrouve demain à 15h pour la basse J'y suis. Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour, vous partez ?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ici ?
Alors, il y a un free cycle. C'est un espace de gratuité où vous pouvez échanger ou emporter des objets de récupération. Et il y a une exposition des œuvres de différents artistes de la maison.
Et vous, vous avez échangé des trucs alors ?
Oui, je fréquente cet espace et donc j'ai l'habitude de réutiliser des objets. Je les prends pour matière première et après je crée des choses avec.
Ah, vous êtes une artiste ?
Oui, on peut dire ça comme ça.
Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Denis. Et ça s'appelle comment ici ?
Ici, alors ça dépend des gens. Soit on l'appelle le pavillon des artistes, soit le Paftar, soit le Pavart. Il y a différents orthographes et ça dépend si c'est sur la page Facebook ou si c'est sur une banderole affichée sur le bâtiment. Ça dépend.
Et vous êtes une artiste de Saint-Denis ?
Oui, j'habite entre Aubervilliers et Saint-Denis.
Je peux vous demander votre prénom ?
Chloé.
Et vous vivez de votre art ?
Non. J'ai une autre activité.
Et quelle est cette activité ?
Je suis en service civique à Croix-Rouge Insertion IDEMU, à Saint-Denis.
IDEMU, ça veut dire ?
L'Institut de l'écologie en milieu urbain. On travaille sur la précarité énergétique. On aide les personnes qui ont une facture énergétique trop élevée à réduire leur consommation.
Alors, par exemple, quel est le premier conseil que vous donnez aux gens qui ont des factures trop élevées ? De moins se chauffer ?
De installer un mousseur sur leur robinet, de mettre des réflecteurs derrière leur radiateur, de bien remplir leur frigo et de lester l'intérieur de leur cuve d'eau pour la chasse d'eau des toilettes.
Pour pas que ça fuit ?
Non, pour utiliser moins d'eau à chaque tirage de chasse.
Et pourquoi un mousseur au robinet ?
Ben, parce que ça réduit le débit, parce que ça met de l'air dans l'eau en même temps que ça coule. Et donc, ça fait le même effet, mais c'est un débit diminué.
Oh ben, merci, Chloé.
Je vous en prie.
Alors, nous sommes rentrés dans un grand hall où il y a plein de choses qui sont posées sur des tables. Il y a du linge, il y a des livres, il y a des cailloux, il y a des pots vides. On entend des rires. Mais il n'y a personne là. Je ne sais pas trop où aller. J'aperçois des gens qui arrivent. Bonjour. Vous êtes combien dans ce pavillon ?
On est une vingtaine.
Et vous logez là ?
C'est surtout des ateliers d'artistes, mais on y dort aussi.
Et vous êtes artiste ?
Oui.
Et ça a été difficile de rentrer dans un lieu comme ça, d'avoir votre place ?
Non, c'est de la communication, c'est de l'échange.
Mais il y a une sélection, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui doivent vouloir venir.
C'est surtout une motivation commune déjà d'un groupe de personnes en commun, avec des expériences déjà dans le passé. C'est quand même le fruit d'un travail.
Ah oui.
Oui.
Vous connaissiez tous avant de vous installer ? Non.
Non, on s'est vraiment découvert ici, mais on savait tous qu'on était réellement motivés à s'investir dans le pavillon.
Mais alors, ce pavillon, il est mis à votre disposition par la ville de Saint-Denis ?
Alors, non, enfin, en tout cas, pas encore.
D'accord. C'est un squat ?
C'est un squat pour l'instant. C'est un squat, oui. Mais on est en train de demander une convention à la CPAM. Là, on vient de l'envoyer hier.
CPAM, c'est la caisse principale d'assurance maladie ? Voilà. Parce que ça appartient...
Donc, c'est la sécurité sociale qui était ici avant. Le bâtiment est libre depuis longtemps. Et donc on est en procédure forcément, hein, puisqu'on est en situation d'illégalité. Mais étant donné qu'on apporte des solutions pour la ville de Saint-Denis en termes de culture, d'échange, de certaines valeurs qui tendent à disparaître, on s'impose, on fait ce qu'on appelle une réquisition citoyenne. Et voilà.
D'accord.
Donc on va demander une convention, on espère qu'elle sera acceptée, c'est-à-dire qu'on demande à payer un loyer ici. En échange, on garde le bâtiment, on le fait vivre, on fait vivre le quartier. On a pas mal de jeunes du quartier qui veulent travailler avec nous, y compris des Francs-Moisins.
Francs-Moisins, c'est le nom d'une cité qui est juste à côté, c'est ça ?
Oui, c'est une cité qui, où y a beaucoup de jeunes qui ont quand même 16, 18 ans, qui sont sortis du système scolaire. Donc on n'arrive pas à les intéresser, même par les structures existantes de la ville qui sont pourtant nombreuses. Et du coup, l'idée, ça serait d'aller dans leur quartier pour travailler ensemble sur des ateliers, initiation graphe, des choses qui pourraient les intéresser, voire même apprendre aussi des choses.
Mais alors, vous êtes une artiste ?
Oui, moi je suis vidéaste.
Vidéaste. Et alors, vous exposez vos œuvres ?
Là, j'expose des photogrammes, des extraits de vidéos danse. Vous venez juste d'arriver, du coup ?
Ouais.
D'accord.
Je connaissais pas.
Je savais pas que vous seriez présent.
Je ne savais pas non plus, hein, c'est le hasard.
D'accord.
Je ne préviens jamais.
Ok.
Donc, on voit le corps d'un homme ou d'une femme, on ne sait pas bien. Mm-hmm. C'est son dos, on a l'impression. Et il y a une plante qui lui pousse dans le dos et c'est en noir et blanc.
Voilà, tout à fait. Ça, c'est la description. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, les chiffres des morts sur les routes de France sont à leur niveau le plus bas historique. D'après Manuel Valls, qui publie aujourd'hui le bilan annuel des accidents de la route, le nombre de tués a baissé de 11% l'an dernier par rapport à 2012, soit 400 vies épargnées, ce qui correspond selon le ministre de l'Intérieur à 3250 personnes tuées l'an dernier, donc sur les routes de France. L'alerte orange au cru est levée dans le Var. L'heure est maintenant à la réparation après les dégâts causés par les inondations de ce week-end. En visite sur place ce matin, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a promis que l'état de catastrophe naturelle serait décrété rapidement. C'est confirmé, le réassureur français SCOR va bien entrer dans le capital des presses universitaires de France. SCOR sera majoritaire dans la nouvelle entité. Le montant de la participation n'a en revanche pas été divulgué. Puf édite notamment les Que sais-je, la collection française la plus traduite au monde qui a fêté en 2011 ses 90 ans. C'est une affaire qui marche. Encore, le tiercé fêtera mercredi ses 60 ans à Cagnes-sur-Mer. Jusque-là, jusque dans les années 80, il a été leader des paris hippiques. Aujourd'hui, il a moins la cote auprès des parieurs qui lui préfèrent le quintet plus, devenu le pari phare chez PMU avec 20% des enjeux totaux. Un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné aujourd'hui un officier de marine qui était jugé pour harcèlement moral, ce après le suicide en 2010 d'un sous-officier qui lui servait de maître d'hôtel à bord d'une frégate. L'avenir immédiat de la Centrafrique est une femme. La maire de Bangui, Catherine Samba Panza, a été élue cet après-midi présidente de transition par le Parlement centrafricain. Aussitôt élue, elle a lancé un appel aux miliciens chrétiens et aux combattants musulmans pour que tous déposent les armes. Manifestez, dit-elle, votre adhésion à ma nomination pour faire cesser les souffrances des populations. François Hollande, de son côté, a salué cet après-midi la victoire de Catherine Samba Panza. Il lui revient maintenant, dit-il, de mener à bien la réconciliation et l'apaisement nécessaires en vue de nouvelles élections démocratique. Un accord sur le nucléaire ne vaut pas le retour sur la scène internationale de l'Iran. Washington attend aujourd'hui que l'invitation de l'ONU à Téhéran pour participer à la deuxième conférence internationale pour la paix en Syrie, en Suisse, soit retirée. Les Américains reprochent à l'Iran de n'avoir jamais pris position en faveur de Genève 1 qui appelait à une transition politique en Syrie. C'est Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui a lancé hier l'invitation et depuis donc elle provoque une levée de boucliers. Les opposants à la coalition nationale syrienne de la coalition nationale syrienne affirment aujourd'hui qu'ils boycotteront Genève 2 si Téhéran reste invité. Et ils ont donné pour cela un ultimatum ce soir, 19h. Pas un mot de l'Iran pour l'instant. En revanche, une avancée sur le dossier du nucléaire. En réponse à la suspension aujourd'hui du programme d'enrichissement enrichissement d'uranium, Bruxelles a décidé de suspendre une série de sanctions économiques contre Téhéran. Les députés s'apprêtent à examiner cet après-midi le projet de loi sur l'égalité homme-femme. Parmi les mesures présentées par la ministre Najat Vallaud-Belkacem, la protection du congé maternité pour les collaboratrices qui travaillent en libéral, mais aussi le renforcement du droit à l'avortement. Ce dernier sujet d'ailleurs suscite la polémique. Hier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Paris contre l'avortement. L'ancien Premier ministre François Fillon, lui, dénonce aujourd'hui une faute morale et politique. Ça risque, dit-il, de banaliser la loi Veil qui doit rester l'exception. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
France Inter vous invite à découvrir, en live et en avant-première, les révélations des Victoires de la Musique 2014.
Avec dans les catégories groupe ou artiste révélation scène, Christine and the Queens, Anne995, Albin de la Simone et Woodkid.
Une soirée exceptionnelle présentée par Vali.
Et dans la catégorie album révélation, le groupe Cats on Trees pour leur album éponyme, Olysses avec l'album My Name Is et La Femme pour Psycho Tropical Berlin.
Les révélations des Victoires de la Musique 2014. À retrouver sur l'antenne de France Inter ce soir à partir de 21h. France Inter.
Du classique avant toute chose. Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour, bonjour Laetitia Gaillet, ben on se retrouve à 17h.
Ben à tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On entend comme générique, tous les jours ou presque, cet extrait de Guillaume Tell, l'ouverture de Rossini, dirigée par Claudio Abbado. Ben justement, Claudio Abbado nous a quittés, on l'a appris aujourd'hui, on en est fort ému, bien sûr, parce que c'était un chef absolument exceptionnel. Mais j'ai préféré reporter l'émission d'hommage à demain, parce que nous avons quelqu'un que nous aimons et estimons énormément aujourd'hui, et qui chante avec Michel Plasson, qui a le même âge qu'Abbado d'ailleurs, 80 ans, et qui... nous dit Karine Day, est en pleine forme à l'Opéra Bastille. Karine, bonjour, merci d'être venue nous voir.
Bonjour.
Alors donc, vous êtes mezzo-soprano, vous avez été artiste lyrique aux Victoires de la Musique en 2011, une carrière internationale formidable, et quand même un hommage à Claudio, même si je le ferai plus complet demain, cet hommage, mais vous l'avez vu diriger, vous l'avez vu et entendu, parce qu'un chef, on le voit et puis on entend les résultats, simplement.
Oui, c'est vrai que je regarde un très bon souvenir de Don Giovanni à Aix-en-Provence, c'est en 98. 18, je crois. Et en fait, mon seul regret, c'est de ne pas avoir été finalement dirigé par lui. Mais évidemment, c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup. Parce qu'il a fait énormément pour le lyrique aussi.
Par sa grande liberté et sa façon de partager la musique sans être dictatorial, sans être quelqu'un qui impose ses vues. Mais il aimait vraiment discuter et partager la musique jusque dans les hôpitaux, les prisons, etc. etc. Mais j'y reviendrai demain. Néanmoins, nous allons entendre, si vous voulez bien, ensemble, avec nos chers auditeurs, le Sanctus du Requiem de Mozart, dirigé évidemment par Claudio Abbado. Le Sanctus du Requiem de Mozart, dirigé par Claudio Abbado, qui vient de disparaître, si vous arrivez à l'écoute de cette émission. Et nous avons entendu le chœur de la radio suédoise avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Donc, je poursuivrai évidemment ce sujet d'Abbado, grandiose chef d'orchestre, grandiose musicien, être humain de première hauteur aussi, demain à partir de 16h. Karine D. Donc, vous chantez actuellement à l'Opéra Bastille. C'était hier, la première à 14h30. Et c'est Werther, d'après Goethe, d'ailleurs, et Werther de Jules Massenet, et sous la direction d'un chef qu'on adore aussi, mais qui est bien là avec nous, c'est Michel Plasson. Alors comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Enfin bon, les répétitions et puis...
C'est un vrai bonheur.
La production avec Michel Plasson.
C'est un vrai bonheur parce qu'effectivement, quand tout est réuni, on a un chef magnifique qui est Michel, qui adore cette musique et qui nous transmet cette passion. On a une mise en scène magnifique de Benoît Jacquot, l'orchestre est sublimissime aussi, le cast, tout mes partenaires. Donc c'est un immense plaisir vraiment et qu'on a pu communiquer d'ailleurs avec le public hier qui nous a vraiment soutenus pendant toute la représentation, qui n'a pas hésité à applaudir pendant la représentation et nous, ça nous porte énormément.
À l'ancienne.
Voilà, et surtout pour les premières qui sont toujours un peu stressantes évidemment. Et